SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Je suis né en Guadeloupe, dans ce pays qui est un département français d'outre-mer. Donc la langue officielle est le français. Il y a une autre langue que nous parlons qui est le créole. Ça veut dire que nous avons accès dès l'enfance à une double forme de culture, la culture française officielle et la culture créole qui nous vient par les gens que nous connaissons, la famille, les amis, et qui est un peu plus souterraine, disons.
Donc c'est une langue officielle de la rue en Guadeloupe ?
C'est-à-dire que si vous parlez, si vous écoutez parler les Guadeloupéens, ils parlent certainement beaucoup plus créole que français. Le français, c'est la langue de l'école, c'est la langue de l'éducation, c'est la langue de la radio. Et maintenant même, nous avons beaucoup d'émissions en créole, même à la télévision. Donc finalement, on peut dire que les deux langues sont parlées, se côtoient.
Donc, est-ce qu'il y a un choix linguistique ? Est-ce que les gens préfèrent soit le français, soit le créole ? Est-ce que, disons, l'enseignement à l'école se fait en créole parfois ?
Non, pas du tout. L'enseignement, vraiment, l'enseignement, c'est le bastion de la langue française. Il y a eu beaucoup d'efforts de la part des enseignants pour avoir ce qu'on appelle 1% de l'éducation nationale qui serait consacrée à une initiation au créole. Par initiation, c'est pas que j'entends, pas qu'on l'apprenne, tout le monde le sait, mais qu'on écrive des petites pièces de théâtre, que les enfants racontent des contes, écrivent des poèmes aussi, libère une créativité en créole. Et malheureusement, ça n'a pas bien réussi, donc le créole est toujours resté en dehors de l'école. Mais il s'en porte quand même très bien, hein.
Mais vous...
C'est lui qui anime les chansons, c'est lui qui anime le théâtre populaire, c'est lui qui est présent dans toutes les distractions qu'on peut dire de masse, et il est certainement très vivant et très vivace.
Alors, quand vous étiez enfant, en train de grandir en Guadeloupe, est-ce que vous-même parliez créole dans la rue avec vos camarades ?
Non, oui, mais enfin, moi, j'appartiens déjà à une génération un peu dépassée. Quand j'étais petite, il y avait, de la part des parents, une sorte d'autoritarisme qui voulait que l'enfant ne parle que français. Que l'enfant, pour montrer qu'il est bien élevé, qu'il a une bonne éducation, ne soit introduit que dans la culture française. Évidemment, les choses ont beaucoup changé. Et maintenant, je vois, j'entends les enfants autour de moi qui parlent à leurs parents en créole. Mais de mon temps, ce n'était pas des choses qui se faisaient.
Alors, quelles sont un peu les composantes de cette communauté guadeloupéenne ?
Évidemment, la Guadeloupe est très petite, mais on peut dire que tous les peuples de la Terre se sont réunis. Évidemment, les Indiens ont été exterminés par les découvreurs, les premiers. Donc, il n'y a plus guère d'Amérindiens. Il y a des Européens, français, anglais, espagnols, hollandais. Il y a évidemment des gens d'origine africaine, les descendants des esclaves. Il y a tout un groupe qui s'est formé de la rencontre des Européens et des esclaves, ce sont les mulâtres. Et en plus, nous avons les Indiens venus cette fois des Indes, de l'Inde, et un peu d'Asiatiques. Des Annamites, des Chinois, et puis aussi, beaucoup plus tardivement, une migration libanaise, des commerçants surtout. Donc vous voyez, dans des territoires vraiment exigus, toutes les races et toutes les sentiments, mentalités, religions de la Terre se sont rencontrés.
Donc c'est une communauté multiculturelle et tout le monde se côtoie.
Oui, elle n'a pas été multiculturelle sans mal. Pendant très longtemps, chaque vague d'arrivants restait un peu sur son côté à soi et se méfiait de l'autre. La dénigrait un peu, la regardait de haut. Il y avait une sorte de méfiance entre tous les arrivants. Et puis, on peut dire que depuis pas très longtemps, mais depuis peut-être une dizaine d'années, les gens ont appris comment apprendre à vivre ensemble, à se mêler et à former peut-être l'individualité créole qui est à l'aval de notre culture.
Et quelle est votre définition d'un ou d'une créole ?
Ben, simplement, justement, c'est un peu le sujet d'une causerie que je vais donner ce soir. Je crois que c'est une question d'intérieur. Avant, il y avait une définition très étroite qui disait qu'un créole, c'est celui qui est né dans l'île, par opposition à un bossal, c'est-à-dire quelqu'un qui était arrivé, un Africain arrivé du dehors, par opposition à un blanc peut-être arrivé du dehors, il fallait que le créole soit né dans l'île. Maintenant, je pense et parle aussi une certaine langue qui était le créole. Maintenant, on dirait que la définition s'est élargie. Toute l'immigration antillaise que nous avons en France, par exemple, seconde génération des gens qui naissent à Paris, à Marseille, à Lille, à Lyon, ben, ce sont comme des créoles parce que leurs parents leur inculquent une forme de culture et d'éducation qui appartient, qui leur vient de leur origine insulaire. Donc finalement, la notion d'être né est devenue beaucoup moins importante, c'est devenu une sorte de subjectivité que chacun de nous porte en lui et défend envers et contre tout.
Et quand ces personnes reviennent en Guadeloupe, par exemple, est-ce qu'elles parlent le même créole de l'époque ?
C'est-à-dire, des fois, elles ne parlent pas créole du tout. Mais nous avons appris aussi qu'on peut être un Antillais de cœur et ne pas, à cause des circonstances compliquées de la vie, ne pas parler créole, l'apprendre plus tard, l'apprendre au hasard de la vie, mais il n'y a plus, il me semble, cette espèce de définition étroite qui voulait que l'Antillais soit celui qui est né dans l'île, qui parle créole, et puis c'est tout. On admet maintenant que c'est beaucoup plus large, beaucoup plus souple, et qu'à cause de tous ces problèmes de globalisation, mondialisation, comme on dit, ben les gens, ils naissent un peu partout, c'est pas de leur faute. Ils apprennent un peu n'importe quelle langue, on peut pas les définir uniquement par ces critères-là.
Marie Condé, quand vous grandissiez, qu'est-ce que l'Afrique, par exemple, représentait pour vous
Elle ne représentait raison, absolument rien. J'appartenais à une famille où on ne parlait jamais de l'Afrique. C'est pas qu'on avait honte d'elle, pas du tout, mais il y avait une totale ignorance, méconnaissance. Il a fallu que, assez grande, enfin adulte, après, au cours de mes études, j'aille la chercher moi-même. Mais enfin, tant que je grandissais, c'était plutôt une absence, un inconnu.
Et donc, si je ne me trompe pas, vous êtes partie vivre en Guinée, c'est ça?
Oui. Mon premier mari était un Guinéen. Nous sommes partis en Guinée juste après l'indépendance de la Guinée. C'était symbolique. Un refus de continuer à porter un masque blanc, comme dit Fanon. Et puis... essayer d'apprendre ce que le fait de la race, comme on disait alors, maintenant on ne dit plus tellement ce mot-là, la race signifiait aussi quelque chose de culturellement différent.
Et votre séjour en Afrique, comment ça s'est passé? Quel regard portez-vous sur ce continent?
Ben, c'est un séjour qui est extrêmement riche et douloureux. Et une série d'éléments positifs qui ont fait finalement de moi ce que je suis devenu, mais aussi qui m'ont appris, qui m'ont ouvert les yeux sur la réalité beaucoup plus complexe. Le monde n'est pas seulement divisé en blanc et noir. Il y a en fait des gens qui sont natifs des Antilles ont à la fois participent à la fois de ces deux univers et puis sont très complexes. Il n'est pas facile de se trouver, de se définir.
Maryse Condé, est-ce que je peux vous demander de nous décrire un petit peu vos projets pour l'avenir? Je sais que vous êtes enseignante à Columbia University aux États-Unis.
Oui,
ces jours-ci.
Dieu seul j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Donc, je n'ai plus la corvée, enfin, corvée pas tellement désagréable. Enfin, je n'ai plus de devoir d'enseigner. Je n'ai plus à me consacrer qu'à l'écriture. Écrire pour les adultes, bien sûr, mais aussi beaucoup écrire pour les enfants. Mes petits-enfants me réclament que j'écrive pour eux. Et finalement, faire un peu de théâtre aussi avec des jeunes troupes de théâtre guadeloupéennes. Donc finalement, maintenant faire beaucoup plus de place à l'écriture que peut-être auparavant.
Donc vous faites le va-et-vient entre les États-Unis et la Guadeloupe?
Nous essayons de vivre, mon mari et moi, 6 mois à New York, 6 mois en Guadeloupe. C'est un peu compliqué des fois, ce constant déménagement. Mais enfin, je pense aussi qu'il est bon d'avoir deux horizons, deux manières de vivre, c'est-à-dire deux manières de penser, de regarder le monde, de se regarder, et que nous allons essayer, autant que faire se peut, de préserver ce voyage, ce déplacement.
Maryse Condé, peut-on revenir sur le but de votre visite en Australie? Vous êtes venu principalement pour la conférence organisée à Perth, la 13e conférence de la Australian Society of French Studies.
Oui, il fallait ce qu'on appelle un keynote speaker, des keynote speakers. Et alors, mon mari et moi, nous avons été chargés de cette tâche très prestigieuse. Le colloque de Perth avait pour thème inclusion-exclusion. Alors, il fallait montrer un peu comment cette littérature francophone, comment une Guadeloupéenne, un écrivain francophone s'inscrit ou ne s'inscrit pas dans la problématique de la littérature, disons, universelle. C'est surtout ça. Et ensuite, nous aurons un autre colloque qui s'appelle Middle Passage, à Fremantle, je crois, et puis un autre colloque à Nunoxia. Donc, vous voyez, nous avons un programme
très chargé. Et sinon, est-ce que vous aurez le temps de faire du tourisme lors de votre séjour ici en Australie?
Je ne pense pas. Je pense que les derniers jours, les trois derniers jours, nous allons venir quand même à Sydney. Ça serait malheureux de venir en Australie et de ne pas connaître Sydney. Alors, il y aura trois jours, c'est bien court, où nous ne penserons qu'à nous. Et où nous allons essayer de goûter un peu à Sydney, au charme de Sydney. Mais à part ça, ici à Perth, l'association des professeurs est très gentille, très dévouée, très attentionnée. On nous emmène un peu à droite, à gauche, et entre les séances très studieuses, très sérieuses, il y a quand même un peu de place pour la distraction, le tourisme.
Marie Scondé, quel est votre message aux francophones, aux francophiles, aux Australiens qui nous écoutent, qui vous écoutent?
Bon, d'abord, je ferai un message très, très égoïste. Je leur dirai, lisez Marie Scondé. J'écris beaucoup de livres, plusieurs livres. Je crois qu'il y en a maintenant 15 ou 16 en français, mais qui ont été largement traduits en anglais par mon mari, Richard Filkoff. Donc finalement, tout simplement, je vous demanderai de lisez ces livres-là, faites connaissance non seulement avec Marie Scondé, mais aussi peut-être avec la Guadeloupe, avec une partie du monde que vous ne connaissez pas, qui a des problèmes différents des vôtres, mais enfin, tous les problèmes sont des problèmes humains, donc toujours intéressants. Et puis ensuite, intéressez-vous, après Marie Scondé, à d'autres écrivains de cette partie du monde. Et si vous voulez, ce serait une occasion de rompre un peu l'isolement dans lequel peut-être vous nous tenez. L'Australie est très loin des Antilles. Il nous a fallu 3 jours pour arriver chez vous. Il faudrait que la distance physique ne soit pas une distance culturelle. Donc, intéressez-vous à cette partie du monde. Il y a quand même beaucoup à offrir.
Est-ce que je peux vous demander de nous dire quelque chose en créole de la Guadeloupe?
Oui. Si je dis, vous ne comprenez rien, alors on ne peut pas les dire. Au revoir, on est bien content de parler avec vous, mais on peut attendre de vous autres pour dire autres exactement ce qu'on peut passer.
Et moi, je vais vous dire quelque chose en créole mauricien. Marie Scondé, un grand écrivain de la Guadeloupe qui peut faire un voyage en Australie et il peut visiter Perth, il peut visiter Sydney, profite de l'occasion pour venir rencontrer cette grande dame.
Mais vous êtes de quel pays, vous-même?
Je suis né à l'île Maurice.
Ah bon?
Créole alors, comme vous.
Que nous avons des créoles qui se comprennent, mais qui sont un peu différents.
Absolument. Vous avez compris ce que j'ai dit là tout à l'heure?
Oui, j'ai compris. Mais évidemment, l'accent et le choix des mots est un peu différent. Mais c'est ça, bande-île, ça veut dire c'est les îles qui parlent un peu le même créole, mais le créole, mais de façon à chaque fois un peu particulière.
Marie Scondé, je vous remercie infiniment et bonne journée à vous.
Merci beaucoup, à bientôt.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.